Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir, chacun, chacune. Et bonsoir à tous. Et Serge Receveur au micro, fun, dit-on encore. Et je salue également vous qui êtes là au Salon Albert Mola, mais également tous nos auditeurs qui nous écoutent via le site de mola.com. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Nous sommes en compagnie ce soir avec Jean-Loup Chifflet, qui vient de publier le dictionnaire amoureux de l'humour chez Plon. Alors, je vais vous dire, je ne m'imaginais pas que l'humour ait autant qu'il puisse faire un ouvrage aussi important. Il y a quand même dans ce dictionnaire, et je voudrais le souligner, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Loup Chifflet, il y a 216 entrées.
Je ne savais pas. Comme ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je ne savais pas, mais je suis content. Que vous
m'avez... Non, il y en a 216. Et avec des fiches qui sont des fiches tout à fait intéressantes, importantes, dont je n'avais pas connaissance, pour moi s'en faut. Et on terminera tout à l'heure, on va divaguer au travers des différentes entrées. Et on terminera avec le panthéon de ce que M. Chifflet appelle le panthéon de ce livre. Ce que je souhaiterais d'abord, M. Chifflet, c'est que vous nous donniez la définition de l'humour. Si tant est que...
Oui, alors je ne vous cache pas que je m'attendais un petit peu à la question. Oui. Et comme je n'ai pas écrit ce livre, comme je vous le disais à l'instant, je me suis un petit peu renseigné. Non, alors la vraie question, c'est vrai que c'est très difficile de définir l'humour. La preuve, c'est que dans cette prestigieuse collection de dictionnaires à l'amoureux, je suis le dernier en date, je crois que je suis numéro 70, vous devez connaître bien sûr cette collection. Jean-Claude Simouen, l'éditeur, avait attendu, il a attendu 70 titres pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse lui faire ce fameux dictionnaire amoureux de l'humour, parce que c'est très difficile de définir, de trouver l'approche. Et comme quand même on le comprend, un dictionnaire amoureux, c'est un dictionnaire subjectif. On ne parle que des gens qu'on aime. Il m'a très gentiment fait la proposition il y a 3 ans en me disant « Est-ce que tu te sentirais capable de le faire ?» Je dois dire que j'étais pas très chaud, j'avais très peur, et j'ai eu très peur pendant 3 ans. Maintenant, ça va mieux. Et parce que il fallait trouver l'approche. Pour lui, c'était un dictionnaire anthologique, et c'est le premier dictionnaire anthologique de la collection. Ça m'a un petit peu rassuré, et c'est vrai que je me suis promené à travers un certain nombre de gens que j'aimais. Alors, pour revenir à votre question, il y a beaucoup de définitions sur l'humour, il y en a beaucoup de farfelues. Tristan Bernard disait « c'est un excès de sérieux », Raymond Queneau disait « une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie », il y en a eu beaucoup. Mais celle qui me sied le mieux par rapport à ce que j'ai fait dans ce livre, c'est celle de Dutour qui disait « c'est une façon de regarder les choses, les idées de profil, de présenter les idées de profil ». Et c'était vraiment ce que j'ai privilégié dans ce livre. C'est le fil rouge de mon livre, c'est cette façon de regarder les idées de profil, c'est-à-dire l'humour du quotidien et les gens qui savent rire de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. Et je cite toujours cette anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je me promenais dans une ville que je ne citerai pas. Il faisait froid, je cherchais un journal et je tombe sur une affiche. Et je vois à la salle des fêtes ce soir, conférence de Monsieur Marcel Dufumier, ingénieur à Grenoble, qui va nous parler des OGM. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Déjà, ça a illuminé ma journée. Je fais 300 mètres de plus, je tombe sur une boulangerie qui n'existait plus et qui avait été transférée rue Pain-Levé. Et moi, je me disais vraiment, ça m'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si ça vous aurait fait rire, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, l'humour au quotidien, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai privilégié des gens comme Woody Allen et mon idole absolue, Vialat, qui disait... l'homme est un animal, coiffé d'un chapeau mou qui attend l'autobus numéro 27 à l'angle de la rue de la Glacière et à l'angle de la rue de la Glacière.
Bah, continuons sur Vialat.
Voilà. Alors continuons sur Vialat. Alors pourquoi Vialat ? Oui, parce que c'est un petit peu le fil rouge de c'est celui qui domine un petit peu de ce que j'ai voulu privilégier, comme je le disais à l'instant, parce que c'est le pionnier de l'humour au quotidien. Vialat était un monsieur qui est né au début du siècle, qui est mort en 70, n'avait pas de qui est le traducteur, c'était surtout un germaniste. Et oui. Vialat a traduit non seulement Nietzsche et Thomas Mann, voilà. C'était le traducteur de Nietzsche et Thomas Mann. Et alors, il a eu pas mal de problèmes parce qu'il n'arrivait pas à vivre de ses traductions. Il a été nommé en Allemagne pour s'occuper d'une revue, la revue Renan, etc. Il est revenu en France et il a été le pionnier de ce qu'on appelle les chroniques. D'abord, les chroniques, ces fameuses chroniques de la montagne. Pourquoi les chroniques de la montagne ? Parce que pendant des années, Vialat, pendant 20 ans, tous les soirs, aller à la gare d'Austerlitz, poster, remettre au train de 23h15 ces chroniques qui ont été publiées dans la montagne pendant 20 ans. Alors, il est l'inventeur de ces chroniques du quotidien. Il parlait aussi bien... Il faisait aussi bien l'éloge du homard que de la vie quotidienne, des choses qu'il avait saisies au quotidien. Et alors, avant d'être chroniqueur, il s'était fait engager dans plusieurs journaux. Il exaspérait son... C'était un fils de militaire. Il était né, il avait une enfance à la Dickens. Il avait une idole qui était un Auvergnat comme lui, qui était Henri Pourrat. Et il avait eu une enfance à la Dickens, il avait beaucoup souffert, mais il avait un humour. C'était un catholique intégriste qui, a priori, ne riait pas beaucoup, mais qui avait un humour absolument décapant et très fin. Par exemple, il exaspérait un de ses premiers jobs, ça avait été de se faire engager à Marie-Claire pour l'horoscope, et il disait par exemple, la femme Capricorne, elle paye le beurre moins cher que les autres, comme les hommes, elle adore le marbre et l'acajou, mais tout spécialement le marbre blanc légèrement persillé de gris vert qui fait penser au fromage de brebis. Elle est fréquemment veuve d'un général allemand et fonde dans son grand âge des religions étranges d'une grande précision folklorique. Il s'est fait virer bien sûr de Marie-Claire, et alors les chroniques c'était, il disait du chien, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le chien, l'ours est fidèle, monogame et bisannuel dans ses devoirs conjugaux. L'écrevisse, la douleur embellit l'écrevisse, et puis l'imparfait du subjonctif. Que serait la vie sans l'imparfait du subjonctif ? Donc voilà. Alors le titre de ces chroniques, moi je ne vous cache pas qu'il y en a qui ont la Bible sur leur table de nuit. Moi j'ai les chroniques de Vialat qui sont sorties en bouquin. Et alors par exemple, Évidence du gars Yacom, ça c'est une chronique. L'éléphant est irréfutable. Hitler et fleur en peau, dame à vapeur ou bateau à voile et voile de vapeur. Alors il écrivait avec beaucoup de finesse, il avait fait une grande chronique sur les Alpes-Maritimes où il expliquait en 50 lignes que les Alpes-Maritimes sont peuplées d'alpins maritimes. Bon, donc voilà, on voit un petit peu qui était Vialat. Alors pourquoi
pourquoi Meyer dit que c'est un éveilleur?
Ben c'est un éveilleur parce qu'il a inventé un genre, il a inventé le genre de la chronique. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé, j'ai fait des chroniques dans certains journaux, mais j'ai toujours rêvé de l'égaler ou d'essayer de lui arriver à la cheville. J'y suis pas vraiment arrivé. Je crois que c'était Dutour qui écrivait quelques jours après sa mort. C'est la mort d'un des plus grands écrivains de notre temps. Vialat est passé, sa mort est passée complètement inaperçue. Stendhal est mort aussi, Flaubert, Gobineau et 20 autres. Pendant qu'on les enterrait à petit bruit, les journaux littéraires étaient pleins d'auteurs dont les noms ont sombré aujourd'hui. Des proches disaient que c'était l'un des écrivains les plus doués de sa génération, voire du XXe siècle. Alors, ce que je disais, c'est fait partie de ce fil rouge, comme d'autres, comme des contemporains, bien sûr, comme des gens, comme des proches, des gens comme Coluche, pas Coluche, enfin des proches, je dirais plutôt Bedos, comme Jean-Louis Fournier, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui m'a appris beaucoup et à qui j'ai beaucoup appris, parce que j'ai été son premier éditeur. Et Fournier fait partie comme des proches avec lequel il a été très proche, puisque c'est lui qui faisait la fameuse minute de Monsieur Cyclopède. On peut dire que ça ressemblait un petit peu aux chroniques de Vialat. Et voilà, c'est l'humour que je privilégie. Ceci étant, j'ai parlé des fondamentaux, j'ai même parlé de quelques femmes, il faut le savoir, il y en a quatre dans mon livre.
Peu.
Et je vous signale qu'il y en a très très peu dans cette collection. Nous l'avons fait remarquer récemment à Jean-Claude Simouen, il n'y a pas de femmes dans... Je suis le 60e. Alors du coup, mais ça restera entre nous, il faut savoir que M. Simouen a signé en catastrophe 4 dictionnaires amoureux avec des femmes qui sortiront quand ils seront faits. Donc je sais, je crois qu'il y a Mme Roudinesco pour la psychanalyse, je crois qu'il y a Laure Adler pour le dictionnaire amoureux de la femme, et puis voilà, bref. Donc pourquoi 4 femmes? Parce que les femmes ont beaucoup trop d'humour, pour moi, c'est pas du tout ce que je veux dire. Les 4 femmes, il y a la marquise de Sévigné, il y a Zouk. Que j'adorais, ouais. qui malheureusement existe toujours et est très malade depuis 20 ans. Des mauvaises langues m'ont soutenu que j'avais mis Zouk parce que j'avais personne à la lettre Z. Mmh. C'est pas vrai. J'ai d'ailleurs dit à mon ami Baraton, qui a fait le dictionnaire amoureux des jardins, qui lui aussi a eu une lettre. Il a un article à la lettre Z, c'est Zinia, et moi j'ai Zouk. Je préfère Zouk au Zinia. Et puis j'ai Valérie Lemercier, je considère qu'elle est quand même au-dessus de la mêlée. Et puis Jacqueline Maillan, qui est la première one-woman show. Alors, dans des articles qui m'ont été plutôt gentils, j'ai dit au début de ce livre que j'avais omis volontairement pas mal de gens, que j'avais donc privilégié l'humour dont je parlais à l'instant. Donc c'est pour ça que ces femmes comme Florence Foresti et d'autres, je les respecte, mais pour moi ce ne sont pas des humoristes langagières, ce ne sont pas des jongleuses de mots comme tous ces gens dont je parle souvent, que je vénère dans ce livre. Et Jérôme Garcin
qui a fait la science du mot.
Voilà. Et Jérôme Garcin a eu la gentillesse de me faire un très bon papier la semaine dernière. Il disait enfin un dictionnaire où l'on ne trouve pas trace des Coé, Bigard, Dubos, Foresti, Lep, Palmade, Dieudonné et autres Magdan. Donc les voilà habillés pour l'hiver. Et moi j'osais pas les citer, mais on s'est pas concerté. Mais il a trouvé exactement et ceux pour lesquels j'avais pas une préférence.
On pourrait parler de Halley, quand même.
Alors, Halley,
que vous considérez quand même comme étant un de nos grands écrivains.
Ben oui, d'abord, il est au début.
Revenir au début.
Je considère qu'Halley, il fait partie de cette même veine. Halley était quelqu'un qui était un agélaste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agélaste? C'est un article que j'ai fait, d'ailleurs, au début de ce livre.
C'est
la première entrée. Je savais à peine ce que c'était que des agélastes. Et les agélastes, ce sont des gens qui ne rient jamais.
Je me suis dit, pour un dictionnaire sur l'humour, ça commence bien. Et avec agélaste,
j'ai voulu beaucoup frimer dans ce livre, dans la mesure où j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai encore frimé beaucoup plus, parce qu'au lieu de faire une introduction ou une préface, j'ai trouvé un mot très très savant, les prolégomènes. On est que 3 à avoir fait des prolégomènes. Avant moi, il y avait Kant et Chateaubriand. C'est un mot savant pour préface. Alors, Halley, il a quand même été... C'est un monsieur qui a quand même commis plus de 6000 pages, qui a commis des œuvres. Parce que j'aime beaucoup ça. Il a inventé le mot entume, c'est le contraire de posthume. Donc ses œuvres sont ses œuvres entumes. Mais il a aussi commis des œuvres posthumes. Halley était donc un agélaste. Parmi les autres agélastes, il y avait, je crois, Isaac Newton, Saint-Ignace de Loyola, Madame Thatcher, et puis je ne sais plus qui, et le curé d'Ars, ça étonnera personne. Moi, je l'ai bien connu, je ne l'ai pas... Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas...
Qui disait que c'était très dangereux de rire.
C'était très... Oui, disait que c'était dangereux de rire. Voilà. Alors, Allais, il s'est rendu célèbre. D'abord, c'était un fan de calembours. C'est pas l'inventeur des calembours. Il avait commencé à publier des combles. Hein, par exemple, on y a tous joué quand on était plus jeune. Quel est le comble de la politesse ? S'asseoir sur son derrière et lui demander pardon. Il a fissé. Et puis, il était surtout... Et surtout, c'était un inventeur extraordinaire. Il avait inventé, alors, en dehors des choses un petit peu farfelues qu'il gardait dans son appartement, une tasse avec anse à gaucher pour gaucher, le crâne de Voltaire enfant, tout le monde s'en souvient. Il avait inventé, je crois que c'est l'inventeur de la lyophilisation du café soluble et de la synthèse du caoutchouc et la photographie. Et puis, il s'intéressait beaucoup à la photographie en couleur. Ouais. Alors, l'œuvre majeure d'Allais, c'est un livre exceptionnel qui s'appelle « Les aventures du capitaine Cap ». Qu'il avait totalement, c'était un personnage qu'il avait inventé, qui était un ancien aventurier des mers et du Far West qui découvrit d'importantes mines de charcuterie et qui, une fois rentré en France, se lance dans la politique pour lutter contre le mensonge, l'hypocrisie, la fraude et la bêtise. Donc ça, il faut absolument lire les aventures du capitaine Cap. C'est encore totalement, contemporain. Dans ce livre, il avait de grands projets, comme diviser la France en 12 tranches latitudinales dont chacune porterait le nom d'une heure de l'horloge. Le midi sera toujours le midi. La tranche immédiatement au-dessus s'appellerait 11 heures, celle au-dessus 10 heures, et ainsi de suite jusqu'au nord. Il avait aussi inventé un moyen pour que
l'appareil pour détacher la moutarde des parois.
Et puis
c'est extraordinaire. Oui. Je vais vous dire quand on n'est pas embêté nous avec notre peau de moutarde.
Absolument.
On a trouvé l'appareil à détacher.
Et puis, dans le capitaine Cap, il veut faire voyager dans le monde entier et il découvre, par exemple, dans la région du Haut-Niger, que les girafes sont atteintes de laryngite et qu'il découvre lorsqu'elles sont atteintes de laryngite, elles se couchent en exhalant une sorte de plainte mélodieuse qui a la propriété d'attirer le boa constricteur. Ce reptile arrive à pas de loup, si j'ose m'exprimer ainsi, et doucement, sans rien brusquer, s'enroule autour du cou de la jeune malade, du ras des épaules jusqu'au-dessus de la tête, etc.
Donc c'était les girafes étaient un grand sujet pour lui, parce que vous dites aussi qu'il a inventé les prairies verticales.
Absolument.
Permettant aux girafes de brouter plus facilement.
Absolument.
Je trouve quand même, c'est extraordinaire.
Alors, Allais a une fin terrible. Enfin, il était totalement alcoolique. Il fait partie... Je dis souvent que dans ce livre, il y a beaucoup d'humoristes qui se sont suicidés, soit directement, soit indirectement, comme Alphonse Allais, qui était un alcoolique qui s'est tué à l'absinthe. Et il disait, le 27 octobre en 1905, son médecin lui disait qu'il fallait, depuis quelques jours, qu'il fallait qu'il se repose. Et il habitait l'hôtel Britannia en face de la gare Saint-Lazare, aux rues d'Amsterdam. Il disait « Demain, je serai mort. Vous trouvez ça drôle, mais moi, je ne ris pas. Demain, je serai mort. » Le lendemain matin, il est mort. On l'enterra au cimetière de Saint-Ouen. Malheureusement, sa tombe a disparu au cours d'un bombardement allié sur la gare de l'Archapelle. Ce qui veut dire que la tombe d'Alphonse Allais n'existe pas et on ne peut pas se recueillir sur sa tombe. Il avait l'habitude de dédicacer lui-même ses livres en ces termes à Alphonse Allais avec le regret de ne pas l'avoir connu, Voltaire. Moi, je trouve ça...
Oui.
Et moi, je dis toujours que j'aimerais lui dédicacer celui-ci à Alphonse Allais avec le regret de ne pas l'avoir connu. Alors voilà, Allais a une place importante dans ce livre.
Comment on suit Allais, on est à Woody Allen. Allons-y, Woody Allen.
On pourrait en parler pendant des
années. Vous êtes très attaché quand même.
Ben oui, je suis très attaché à Woody Allen. Je me suis trouvé beaucoup de points communs, sauf que je n'ai pas encore eu le courage de passer 27 ans sur un divan. Allen m'a toujours fasciné parce que... ces films en particulier, moi j'ai, parmi tous les films de Woody Allen, j'ai un film culte qui est évidemment Manhattan, parce que je trouve que cette façon, lui aussi, là aussi, on est encore dans cette façon exceptionnelle de regarder les autres, de regarder les idées de profil, avec ce fameux nonsense. Alors, le nonsense, on pourrait aussi en dire deux mots, parce que c'est très important dans mon livre. Moi, je suis un peu... j'ai beaucoup travaillé sur le nonsense depuis que j'ai fait mon premier livre, Sky, My Husband. Je me suis beaucoup intéressé à l'humour américain, à l'humour anglais, à l'humour juif. Alors, la différence entre l'humour... l'understatement anglais, c'est ce qu'on appelle un peu la litote, c'est tout ce qui est suggéré. Par contre, l'humour américain est un petit peu, c'est un petit peu l'humour d'Allen, c'est un petit peu l'overstatement, c'est un petit peu exagéré. Et Allen, tout ce qu'a fait Allen me fascine. Il fait partie, comme beaucoup dans ce livre, des gens complètement angoissés, terrorisés par la mort.
La culpabilité.
La culpabilité judéo-chrétienne. Et donc, je cite beaucoup de choses. C'est vrai, je vous le disais au début, c'est un livre qui est plutôt une anthologie. Et si vous aimez Allen, vous trouverez beaucoup de choses qui devraient vous intéresser. Je pense à cette phrase, il disait, je crois que c'est dans Broadway Danny Rose, il disait « La culpabilité est importante, c'est important de se sentir coupable. » Moi, j'en sais quelque chose. « Sinon, tu sais, tu es capable de choses terribles. Je me sens coupable tout le temps et je n'ai rien fait. Mon rabbin, le rabbin Perlstein, disait toujours que nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. » Alors, je crois que c'est Mia Farrow qui lui dit « Tu crois en Dieu ?» Non, non, mais ça me donne un sentiment de culpabilité. Je crois qu'il y a des psychiatres dans la salle, donc je les ai repérés. Donc voilà pour Woody Allen. Je suis un inconditionnel et voilà, j'ai trouvé dans cet article, j'essaye de trouver des points. On a quelques points communs, mais ça, je n'ose pas le dire en public. Mais si vous achetez le livre, vous le trouverez.
On va peut-être sauter sur un mot, le calembour.
Alors, le calembour.
Ah, c'est quand même.
Alors, le calembour, il y a eu plusieurs origines du mot calembour. On dit que ça vient de l'allemand calembour. En réalité, ça aurait été inventé par un monsieur qui était le marquis de Bièvre. Et qui est un des premiers à avoir fait des calembours, je crois, en 1800 et quelques. Et alors, il faut dire qu'au début, les calembours, Molière, Voltaire et Hugo, autant que je me souvienne, détestaient les calembours. Et pourtant, Hugo avait un certain humour. Alors, Voltaire le vouait aux gémonies, Victor Hugo le fustigeait dans Les Misérables, et Molière le disait ramassé parmi les boudales et de la place Maubert. Alors, évidemment, le maître du calembour, c'est Alphonse Allais, on en parlait. Il avait inventé des personnages comme Tony Truant, Mac Larinette. Il avait des problèmes, il se faisait soigner par un cardiologue et il avait inventé fermer la horte, SVP, que Dieu myocarde. Mais dans les grands calembourgeois encore vivants et bien vivants, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai édité avec ma casquette d'éditeur, qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre, c'est Patrice Delbourg. Et Patrice Delbourg avait fait tout un livre, que j'ai d'ailleurs édité, uniquement en calembour, sur l'Hexagone. Il disait « C'est Paris vaut bien une messe, l'Hexagone vaut bien quelques calembours. » Alors vous aviez « L'erreur est du Maine »,« Fécondation in vitrole »,« À Nice au pays des merveilles »,« Après vous, Madame la Garonne », À l'ombre des jeunes filles d'Honfleur, le petit maire d'Eu, vous savez, Eu, c'est un petit village en Normandie, comme tout le monde sait, Eu, être pompier à Bonneuil, etc. Vous aviez aussi, des calembourgeois nous ont quittés, alors Blondin, Camille, Commerson, Frédéric Dard, qui est très présent dans ce bien livre, sûr. Raymond Devos, lui aussi, etc. Et puis, il y a le célèbre calembour de Jean-Paul Grousset, « Chasser le naturiste, il revient au bungalow. » qui a été attribué à pas mal de monde.
Bien. Mon Dieu, le temps avance. On pourrait parler de Blondin ?
Blondin. Voilà encore un qui... Alors, je ne l'ai pas connu, mais parce que vu mon grand âge, j'aurais pu le connaître.
Déjà, le deuxième à Cirrose.
Oui. Hein. Alors, Blondin, c'était un personnage étonnant, totalement rongé par l'alcool. Lui aussi, il paraît que... J'ai retrouvé dans les archives qu'il écrivait dans un café, je vais vous en parler, dans le 6e arrondissement, qui s'appelait le Barbac, et il a été arrêté emmené au commissariat du 6e 36 fois, pour vous dire à quel point. Il arrivait le matin dans son bistrot, le bar Bac, en disant « au goulot ». Hein, car tout est litre et rature. Hein, voilà. Donc déjà, l'ambiance est... on se rend compte. Et quand il est mort, parce qu'il ne faut pas que j'oublie cette anecdote, un journaliste que j'ai connu et qui était à François et qui est maintenant à la retraite, Jean-Claude Lamy, avait titré François en disant « Même l'Église était bourrée ». Je trouve ça super. Alors Blondin, bien sûr, Blondin, c'était un monsieur qui avait eu une enfance aussi difficile, mais il était brillant. Il avait enseigné la philo, et puis il a fait un premier roman qui a pas très bien marché, L'Europe buissonnière. Puis il a publié Les fameux enfants du bon Dieu, puis l'humour vagabonde et le fameux Un singe en hiver, que tout le monde connaît, dont les dialogues, avec les dialogues d'Audiard, avec Belmondo et Gabin et le fameux Picombière. Alors Blondin a été totalement dévasté quand son meilleur ami, Roger Nimier, s'est tué en voiture en 62. Il était très proche de Roger Nimier. Et c'est de là, d'ailleurs, que c'est là qu'a été créée la fameuse association des Hussards, parce que un des livres de Nimier, c'était le fameux Hussard Bleu. Et après la mort de Nimier, ils avaient créé, en hommage aux Hussards, un club d'écrivains qui était plutôt de droite, bien sûr, parce que Blondin était plutôt de droite, bien qu'il avait une grande admiration pour François Mitterrand. Et chez les Hussards, vous aviez Déon, Jacques Laurent, Laudenbach, Kléber et Dins. Et moi, j'ai été, puisqu'il est mort en 91, c'est ça, en 2011, j'ai été à l'inauguration d'une plaque au fameux bar Bac qui se trouve rue du... Donc 20 ans après sa mort, qui se trouve rue du Bac, en hommage à Blondin. Mais alors, Pierre Assouline disait que c'était un des plus grands écrivains de sa génération, mais Blondin s'est surtout fait connaître avec ses chroniques de sport, de sportif. C'était un fou de vélo.
De vélo.
Hein, il a suivi non seulement le Tour de France, mais il a beaucoup écrit sur toutes les compétitions sportives. Et il avait un petit côté, voilà, quand il titrait toujours ses étapes, un peu comme Delbourg, dont on vient d'en parler. C'était par exemple à l'étape de une étape qui était dans le Gers, il disait « Ne me faites pas rire, j'ai l'élève gersoise », donc il fallait savoir que l'étape était dans du Gers. « La Genée pour des prunes », « Un calvaire breton », « Sophia Lorraine », bien sûr, Alsace-Lorraine, « Du pain et des jeux », ça c'était l'étape dans les Landes, hein. Cépage et sans pitié, ça devait être dans la région. Hein, et l'affaire est dans le sac. Voilà. Blondin était un monsieur qui était, paraît-il, pas très agréable. Comme il était un peu comme tous ses proches, Fournier. Ils avaient un caractère difficile. Mais je crois que c'était un formidable écrivain. Et je cherchais une anecdote. Oui, il disait un jour, en suivant le tour... Ah oui.
L'histoire de la pintade.
La pintade, oui.
Ah oui.
Alors, il disait... Alors, il suivait le Tour de France et il constate que l'intendance ne se renouvelle guère le soir au repas à l'étape. Et le menu des suiveurs, donc il faisait partie des suiveurs, à qui l'on sert tous les soirs une inévitable pintade, il ne tient plus au bout d'un moment et dit « Si cette pintade doit faire le tour, je suggère qu'on lui mette un dossard. » Voilà pour Blondin.
Francis Blanche. On pourrait parler de Francis Blanche.
Oui, parlons de Francis Blanche
et de Pierre Dac.
Oui, oui, bien sûr. Moi, c'est toute mon adolescence, les gags de Blanche. Alors, c'est vrai que Blanche était... On les associe beaucoup. Bien sûr, ils étaient inséparables, mais Blanche était beaucoup plus... il était beaucoup plus solide que Pierre Dac, puisqu'il a d'ailleurs sauvé 3 ou 4 fois Pierre Dac du suicide, parce que Pierre Dac était très tourmenté, il a voulu suicider plusieurs fois. Francis Blanche, c'était un enfant de la balle, il était né, il était fils et petit-fils de comédien, il était né pendant la paix de 1839, c'est joli, hein. Il était né entre 1918 et 1939, et tout le monde se souvient, moi je me souviens que je ne ratais jamais le dimanche matin ces canulars, c'était un des ancêtres des canulars, avec il piégeait, c'était autre chose que la gaffe, hein. Il piégeait le dimanche matin, il prétendait être le patron, le directeur d'un cours, d'une école qui s'appelait le cours Sautreau, je me souviens.
Oui, bien sûr. Et l'histoire de l'ouvre-boîte.
Tout le monde se souvient de l'ouvre-boîte, ça c'était un grand classique, une femme qui...
Oui, un ouvre-boîte de petits pois.
Voilà, exactement.
Et sur... mais citez quand même l'histoire, je suis presque aussi célèbre que De Gaulle.
Oui, parce que je suis presque aussi célèbre que De Gaulle. Qui peut se vanter d'avoir à la fois de son vivant une rue et une place, c'est ça, hein, rue Blanche et place Blanche. Et puis tout le monde se souvient de la fameuse interview de Sartre, Rabindranath Duval, ça c'était
bien sûr.
Hein, on se souvient de Francis Blanche dans Babette, ça va, s'en va en guerre, etc. Et puis il avait des phrases formidables. Bon, Dac aussi a eu ses fameuses petites annonces, mais Dac, Blanche, c'était pour rentrer chez vous une seule adresse, la vôtre, ça j'ai adoré ça. Madame, n'achetez plus de tissus écossais, écossez vous-même vos tissus. Étudiants, étudiantes, ne vous présentez plus au bac, prenez le pont de Tancarville. Ça, c'était drôle aussi. Je me souviens très bien de ces pubs. Marnie, le bas qui fait parler la jambe. André, la chaussure qui fait parler le pied. Razurel, le slip qui fait parler le... On ne sait pas la suite. Et alors, Dac, c'était... Bien sûr, c'était le même genre. Dac avait été un résistant. On se souvient aussi de ses... Il était très courageux pendant la guerre, avec ses fameuses... cette phrase, Radio Paris ment, c'était
bon,
quand il était, je crois que ça s'appelait à l'époque, c'était pas radio, c'était sur les Champs-Élysées, c'était pas Radio France, bien sûr, à l'époque, donc, mais voilà. Alors, Pierre Dac, y a un spécialiste de Pierre Dac qui s'appelle Jacques Pessis, qui l'appelait le maître 63. C'était son maître et son maître 63, parce qu'il s'appelait en réalité André Isaac, et il n'était pas très grand. Il avait inventé... Oui, c'est Radio Cité. La même année, la Société des Loufoques. Et puis, surtout, il a fondé un journal qui s'appelait Le Samoal, qui a eu un certain succès, puis ensuite qui a dû fermer au moment des problèmes de la guerre. Mais dans les meilleures saillies de Pierre Dac, ce sont ces fameuses petites annonces qu'on cite toujours. On demande cheval sérieux connaissant bien Paris pour faire livraison seul. Monsieur atteint strabisme divergent, cherche monsieur strabisme convergent pour pouvoir ensemble regarder les choses en face, etc.
Donc, vous qui partez à la croisade.
Faites-vous habiller chez Godefroy de Bouillon, le spécialiste du veston croisé. Alors, il s'engagea dans la résistance, et voilà, c'était lui qui chantait pendant la France occupée sur Radio Paris, contre Radio Paris, qui était occupée par les Allemands, et sur l'air, il chantait à la BBC, donc il a rejoint De Gaulle, sur l'air de la Cucaracha, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Alors après l'eau Samuel, il a fait l'os libre, etc. Et puis tout le monde se souvient aussi, enfin, les gens de ma génération, du fameux signé Furax qu'on ne ratait
bien
pas,
sûr,
avec Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, qui existe toujours,
qui assurait
est un
la
très vieux
onde.
Monsieur, et la mise en onde, c'est Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, et ce monsieur, je crois, a 96 ans, et c'est son vrai nom, et il vit toujours, voilà. Voilà pour Pierre Dac. Voulez-vous qu'on parle de... Est-ce que je peux parler des gens un peu inattendus, par exemple,
bien sûr,
voilà,
mais
dans ce
vous
livre.
Avez tous les droits.
Bon, alors je parle beaucoup de... Là, on parle de gens qui sont plus là. J'ai bien sûr des... Il y a bien sûr des gens tout à fait vivants dans ce livre. On en parlait tout à l'heure. Je pense en particulier à François Morel, que j'aime beaucoup et qui est un garçon que j'ai la chance de bien connaître et que je trouve... très fin, il suffit de voir son bourgeois gentilhomme. François Morel n'est pas seulement l'homme des chiens. Et puis, il y a des gens, quand je dis des gens inattendus, je vais vous parler d'un monsieur, par exemple, qui s'appelait André Frédéric. Je ne savais pas qui était André Frédéric. Mmh. André Frédéric, un jour, Jean-Louis Fournier me dit « J'espère que tu as mis André Frédéric ». Je dis « Ah bon, je ne sais pas qui est André Frédéric ». Souvent, on me disait « J'espère que tu as mis Monsieur Machin, j'espère que tu as mis Madame Truc ». C'était difficile, il y a 800 pages quand même. Et alors, je me renseigne sur Frédéric et je lui dis « Pourquoi tu veux Frédéric ?» Il me dit « Parce que Frédéric était un pharmacien qui est mort dans les années 70, qui a écrit quelques poèmes, mais qui a eu cette phrase extraordinaire « Nul n'est censé ignorer l'origine crapuleuse du chant grégorien ». Bon, pour moi, c'est le summum de la quintessence de l'humour que j'aime. Donc, je me suis renseigné sur Monsieur Frédéric et j'ai trouvé qu'il était non seulement pharmacien, mais qu'il recevait ses clients déguisés en Louis XIV. Et le mieux, c'est que quand sa maman est morte, il a dit « À partir d'aujourd'hui, je suis en deuil, je n'irai plus voir que des films en noir et blanc ». Moi, je dis total respect. Voilà. Alors ça, c'est déjà... Je pense aussi à Plonk et Replonk. Plonk et Replonk, ce sont deux frères, oui, très jeunes. Hein, oui. Ce sont des Suisses qui sont les maîtres du détournement de cartes postales. Il faut absolument vous procurer des Plonk et Replonk, des cartes postales magnifiques. Je pense à une en particulier... où on voit une femme avec des enfants sous l'Arc de Triomphe, et c'est la femme du soldat inconnu qui pose avec ses enfants sous l'Arc de Triomphe. Et c'est magnifique. On les trouve à Paris, à la maison de la culture suisse. Je pourrais parler, bien sûr, ce qui est très présent dans ce livre, c'est l'Oulipo, c'est Pérec, c'est tous ces humoristes langagiers. Moi, j'ai eu la chance, je le raconte dans le livre, Pérec m'a toujours fasciné, je ne l'avais jamais rencontré. Et un jour, en rentrant de New York, peu de temps avant sa mort, c'était dans les années 70, je me suis trouvé derrière lui dans un avion, je n'osais pas lui parler. Et puis, j'étais très, très ému, impressionné. Et puis, on arrive à Orly, il se lève, et puis on se retrouve coincé parce que la passerelle n'arrivait pas. Donc, on était presque face à face. Et là, tout rougissant, je lui dis... Monsieur Pérec, vous êtes mûr maintenant pour écrire l'avion en mode d'emploi. Je me souviens, je lui ai dit ça. Je suis devenu rouge comme une pivoine. Il m'a dit, je vais y penser. Donc ça, c'est les humoristes langagiers. Je pense à mes amis des Papous, les Papous. Ce qui ressort de ce livre...
Le dimanche, France Culture.
Ce qui ressort de ce livre, c'est que dans les années... Dans la première moitié du XXe siècle, avec les surréalistes, avec les pataphysiciens, on savait s'amuser avec une finesse extraordinaire. Et c'est ça que je dénonce. Et ce que le camarade Jérôme Garcin a eu la gentillesse de bien saisir, c'est qu'il dit que maintenant, l'humour, ce qu'on appelle le comique, d'ailleurs, comique au départ, c'est un adjectif, hein, je ne sais pas pourquoi on l'emploie comme un mot commun, c'est pas de l'humour. Quand vous voyez ce qui se passe maintenant, pour vraiment avoir un petit peu de finesse et d'humour, il faut attendre minuit ou alors écouter France Culture pendant une demi-heure seulement le dimanche matin avec les Papous. Je dis que c'est un petit peu triste. Mais heureusement, il y a des gens dont je parle dans ce livre, c'est pas du copinage, des gens avec qui j'ai travaillé, comme Vincent Roca,
oui, comme Vanier, qui est brillant,
un garçon que j'ai édité aussi et qui malheureusement se produit dans des théâtres compliqués, pas faciles à trouver en banlieue. Je pense à Jean-Jacques Vanier aussi.
Beaucoup de tournées en province.
Oui, qui font beaucoup de tournées en province alors que le Zénith est rempli par Bigard. Et ben voilà, je l'ai dit. Je l'ai oublié, oui, Bigard. Et je trouve ça un petit peu dur. Et je dis vraiment qu'on savait, vraiment à l'époque, non seulement au début du XXe siècle, mais même dans la deuxième partie du... On vient d'en parler, dans la deuxième partie du XXe siècle, on avait une façon... je pense à Prévert, par exemple, on n'en a pas parlé. Je pense à des gens comme ça qui nous manquent. Prévert, je pense à Beckett, qui n'était pas un rigolo, qui ne riait pas beaucoup. Beckett a eu cette phrase extraordinaire, mais que foutait Dieu avant la création? Bon, il fallait quand même y penser. Pour moi, je donnerais... Alors, je vous citerai peut-être pour terminer tout à l'heure, bientôt, quelques...
Alors, passer... Alors, à la fin du livre,
oui,
vous avez un panthéon. Mais je voudrais d'abord que, quand même, on se donne juste 2 minutes, que vous nous expliquiez le principe du zeugme.
Ah, le zeugme. J'ai édité 2 livres sur le zeugme. Alors, Il baissa sa culotte et dans mon estime, ça c'est le premier. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une fille qui s'appelle Maryse Courberan. En réalité, bon, le zeugme ça m'a toujours beaucoup amusé. C'est difficile à définir, mais je vais vous en citer quelques-uns. Quand vous dites, par exemple, il baissa sa culotte et dans mon estime, ça veut dire que vous associez deux idées en sautant le verbe, si je puis dire, qui doit les relier et qui n'ont rien à voir. Et le premier à avoir fait un zeug, je crois que c'était Victor Hugo, vêtu de probité et de l'impropre. Et parmi les... Pour moi, le zeugme par excellence, c'est celui de Desproges qui a inventé le triple zeugme, ou le quadruple, je ne sais plus, et qui a dit ceci, je crois, « Après avoir sauté sa belle-sœur, et le petit déjeuner, il reprit courage et une banane. » Donc là, vous avez quand même le double zeug. Donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais voilà. Alors, j'aurais voulu parler de Tristan Bernard.
Oui,
j'avais aussi de l'humour juif. Alors l'humour juif.
Ah, l'humour juif, il y a une entrée sur l'humour juif.
Oui, l'humour juif et Tristan Bernard, justement, ça nous permet d'en dire deux mots. D'abord, j'ai découvert une chose intéressante. Il y avait une phrase que je trouvais formidable. On disait que c'était Boris Vian, qui est très présent dans ce livre. On disait que c'était Duhamel, Georges Duhamel, qui avait dit « L'humour est la politesse du désespoir ». Et puis, en travaillant sur ce livre et en m'attardant beaucoup sur le surréalisme belge, parce que c'est formidable, le surréalisme belge, avec des gens comme Skutner, comme Marienne, etc. Et puis, justement, je rends hommage sur ma couverture à Magritte, qui était avec la pipe de Magritte et de la Joconde. La véritable phrase qui me semble bien évidemment beaucoup plus justifiée, c'est « l'humour noir et la politesse du désespoir ». Et c'est Achille Chavet qui a dit ça. Et là, on comprend tout. Alors évidemment, l'humour juif, c'est cette fabuleuse autodérision. Je privilégie dans ce livre, et je le dis, je privilégie beaucoup l'humour avec et pas l'humour contre. Et puisqu'on parle de l'humour juif, Tristan Bernard était juif. Il a été emmené à Drancy. Et Sacha Guitry, sachant ça, essayant de lui faire parvenir, a réussi à le joindre et lui faire passer un message. Et il lui a dit « Qu'est-ce que je pourrais vous faire porter? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et Tristan Bernard a eu cette phrase magnifique. Il a dit « Je voudrais, si possible, un cache-nez ». Donc, tout est dit. Voilà, ça, c'était cette fabuleuse autodérision qu'ont les Juifs pour se moquer d'eux-mêmes. Alors, évidemment, je cite beaucoup d'histoires juives, dont une, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi elle est juive. C'est l'histoire j'ai trouvé dans le livre de Rabinovitch, avec qui j'ai fait une émission, qui, comme son nom l'indique, est juif, et qui a beaucoup d'humour, comme tous les Juifs. Et c'est un monsieur qui arrive chez son médecin. Son médecin lui dit « Écoutez, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Par quoi je commence ?» Et le type dit « Écoutez, commencez par la bonne. » Et il lui dit « Eh bien, vous n'êtes pas hypochondriaque. Bon, » voilà. Bon, moi, je trouve...
voilà. Et le télégramme.
Le télégramme. Alors, lisez-nous le télégramme.
Alors, le télégramme, oui. Juif, oui. Commence à t'inquiéter, détails suivent.
Voilà. C'est oui. Et puis beaucoup de choses sur les rapports avec la mère, bien sûr. Mais oui. Quand je parle de Woody Allen, quand je parle des frères Marx, Marx c'est l'humour, c'est le nonsense. Moi, les frères Marx c'est l'humour juif et c'est aussi l'humour américain. J'adore cette phrase de Groucho Marx parce que là, c'est vraiment le nonsense. On balance une phrase, enfin une vérité a priori, et puis il y a un petit temps, et puis ensuite il y a une pirouette cacahuète. Groucho Marx dit par exemple, l'autre jour il y a une femme qui n'arrêtait pas de frapper à ma porte d'hôtel, au bout de 3 heures je l'ai laissée sortir. Voilà, donc ça si vous voulez, ça c'est pour moi le nonsense, c'est... Alors... Si vous voulez qu'on parle un petit peu... Alors, oui, il y a l'humour involontaire, il y a les brèves de librairie dont je parle beaucoup dans ce... Bon, alors, l'humour involontaire...
Ah si, les mots de la fin.
Ah, les mots de la fin.
Ah, page 428.
C'est pas très drôle, les mots de la
fin.
Ah
non, mais oui, mais...
C'est vrai qu'en mourant, il y a des gens qui avaient beaucoup d'humour. On espère tous avoir autant d'humour dans les mots de la fin.
Oscar Wilde qui reçoit la note d'honoraire de son médecin... Et qui dit « Je meurs vraiment au-dessus de mes moyens ».
Voilà. Oui, mais il y a des...
429.
429, vous êtes très aimable, merci beaucoup. Alors, les mots de la fin, bon, elles sont, il y en a qui sont peut-être apocryphes. Oui, ça, c'était la fille aînée de Louis XV qui disait « au ciel, au galop ». Champfort qui disait « Je vais faire semblant de ne pas mourir ». D'autres préfèrent le départ en fanfare, comme cet ami de Jean-Jacques Rousseau qui lâcha une belle flatulence. Bon, femme qui pète n'est pas morte, et elle mourut, c'est joli. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, ce qui est François de Malherbe qui a interrompu, ce qui était un fou de la langue, bien sûr, et c'est pas une contrepétrie. Et qui interrompt son confesseur, il était en train de mourir, et lui dit « Ne me parlez plus, votre mauvais style me dégoûte. » Et il meurt, hein, c'est joli. Et aussi le poète Félix Arvert, qui corrige une femme de service, qui crie « C'est au fond, il entend dans l'hôpital où il va mourir, c'est au fond du corridor. » Et il dit « On ne dit pas corridor, mais corridor. » Et puis, si Rameau sur son lit de mort a toujours l'oreille absolue, que diable me chantez-vous là, monsieur le curé, vous avez la voix fausse, etc. Antoine Watteau, qui n'est pas aveugle, qui dit « ôtez-moi ce crucifix, comment un artiste a-t-il pu rendre si mal les traits de Dieu ?» Voilà. On aimerait tous avoir autant de courage et d'humour
à la fin.
Hein, voilà.
On passe au Panthéon.
Alors le Panthéon.
Alors là,
oui,
vous avez.
Bon, Panthéon, bon. Alors on aurait pu parler
de quoi pour les longues soirées d'hiver.
On aurait pu parler des titres insolites. On aurait pu parler de l'humour involontaire. On aurait pu parler de beaucoup de choses. Alors le Panthéon. Moi, je vous en ai. J'en ai retenu quelques-unes. Alors Panthéon, c'est 50 pages qui sont classées par ordre alphabétique. Et qui peuvent vous servir, vous en lisez une. Moi, c'est les saillies qui me font rire, et souvent, elles ne sont pas forcément très, très drôles. Je pense en particulier à cette phrase de Prévert qui est magnifique, qui dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Moi, c'est une phrase qui me guide tous les jours, j'y pense tout le temps. Et on peut dire aussi « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en revenant » quand on a quelque chose de très heureux qui vous arrive. Alors, bon, j'en ai pris au hasard. Alors, la musique, par exemple, ça, et on parle beaucoup de... J'ai beaucoup parlé d'Éric Satie, qui avait beaucoup d'humour. Hein. Éric Satie qui disait « Quand j'étais petit, on me disait « Tu verras quand tu auras 50 ans. » J'ai 50 ans et j'ai rien vu. Alors, Parsifal, par exemple. Parsifal, je ne sais plus qui a dit ça, est un opéra qui dure 3 heures. Et qui commence à 19h. Au bout de 3 heures, vous regardez votre montre et il est 19h20. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Un monsieur qui s'appelait Parson qui disait « L'autre jour, je suis allé à une conférence sur l'éjaculation précoce. Je suis arrivé 5 minutes en avant, c'était déjà fini. » J'aime bien. « Dieu merci, je suis athée. » J'aime bien ça aussi. Clément Attlee qui avait eu cette phrase magnifique. Si Khrouchtchev avait été assassiné à la place de Kennedy, je ne suis pas sûr qu'Onassis aurait épousé Madame Khrouchtchev. Bon, ça c'est bien. Hein. Woody Allen qui dit je devais être exécuté à 6h du matin, mais comme j'avais un. Je dois être exécuté à 6h du matin, mais comme j'ai un bon avocat, je ne serai exécuté qu'à 6h30. Je ne sais plus qui avait dit mon courtier en bourse a été élu homme de l'année, c'était en 1929. Je ne sais plus qui a dit aussi mes deux compositeurs favoris sont les Bach, Jean-Sébastien et Jacques Offen. Hein alors, j'en ai une. Bon, Jésus, il y en a beaucoup. Jésus était juif, mais seulement du côté de sa mère. Hein. Pourquoi Jésus avait un prénom espagnol? Ça, c'est une bonne question.
Hein. Oui, oui.
Tout le monde pense que je suis hypochondriaque, mais ça me rend malade. pourquoi les moutons ne rétrécissent-ils pas quand il pleut? Hein. L'autre jour, j'ai fait l'amour pendant 1h05, c'était le jour du changement d'heure. J'ai déjeuné, ça c'est Woody Allen qui dit ça, j'ai déjeuné avec un type qui devait être champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour passer la salière. J'aime bien. qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors,
Journaliste quand même, de Jules Renard. Journaliste, le comble pour un journaliste, être à l'article de sa mort.
Très bien. Alors j'ai un grand, grand faible pour un monsieur, ça c'est la phrase que je préfère entre tout. Et je dis toujours, j'aurais donné 10 ans de ma vie pour là, mais je crois que c'est quand même un peu dur. C'est un monsieur qui était un peu le Raymond DeVos américain, qui s'appelait Robert Burns, qui est mort à 100 ans, que j'avais rencontré aux États-Unis à 97 ans, je crois. Et il avait eu cette phrase magnifique pour expliquer qu'il était très vieux. Il disait, vous savez, je suis très très vieux, la preuve c'est que quand j'étais petit, la mère morte n'était que malade. Et moi, là, je dis, comme disent les jeunes, je dis total respect. Voilà. Bon, il y en a des plus, il y en a des plus prosaïques. Mon voisin, un pacemaker, un pacemaker qui doit mal fonctionner, quand il fait l'amour, ça ouvre la porte de mon garage. Moi, je sais pas qui a trouvé. Alors, beaucoup de choses sur les mariages aussi. Moi, je me suis...
Les belles-mères.
Les belles-mères, oui. L'autre jour, on a eu... ma belle-mère a déjeuné, je préfère le poulet. Bon, ouais, c'est pas terrible. Bon. Non, alors Hollywood, c'est assez drôle. À Hollywood, un mariage réussi à Hollywood, c'est quand les deux mariés sortent ensemble. Ça, c'est pas mal. De l'église. Hein. Ou alors, on jette du riz à cuisson rapide. Tellement les mariages durent peu longtemps. Je pense aussi à cette phrase, c'est que je cite toujours quand on me demande de faire des discours de mariage. Oui, par exemple, il y a celle-ci. Je pense pas que leur mariage va durer très longtemps. Déjà à l'église, quand il lui a dit « Veux-tu être mon époux ?» etc. Il lui a dit « Ne me parle pas sur ce ton. » Donc ça commence. Ou alors un mariage qui peut durer, c'est un déjeuner ou deux dîners deux fois par semaine avec des chandelles et du foie gras. Lui le mardi, elle le mercredi. Vous voyez, ça c'est, moi je trouve ça c'est, ce sont des conseils à. Hein.
Vous verrez. Voilà. Il y a encore le croque-mort. Métier de croque-mort n'a aucun avenir. Les clients ne sont pas fidèles.
Ça c'est joli. Et il y a aussi Clément Attlee qui disait j'aime bien, j'adore la nourriture chinoise. Mon plat préféré c'est le numéro 27. Ça j'aime beaucoup parce que c'est. Hein. Voilà. Alors ça, vous les trouvez. La devise des Kennedy, ne pas se laisser abattre. Ah oui. On en parlait, ça c'est
exact.
Donc alors, vous les trouvez
le
à la fin du livre. Voilà.
650 à 691. Oui. Vous verrez, il y a.
Il y a des gens que j'aime beaucoup. Moments. Il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup aussi, qui était journaliste. Il est mort il y a quelques années. Il était journaliste. J'avais fait un livre avec lui, Le Dicodingue, je me souviens. C'était Raoul Lambert. Par exemple, il disait, il avait ad hoc la locution latine. Il disait, locution d'origine latine signifie ce poisson est fumé. C'est joli. Hein. Si le fils d'Abraham avait été un adolescent, on n'aurait pas parlé de sacrifice. C'est dur. Bon, voilà. Ah oui, ça, c'est Groucho Marx. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai fait l'amour. J'ai encore le reçu. Ouais. Bon, voilà. Alors, il n'y a pas que ça. C'est un petit peu léger. C'est pour la fin. Et puis, vous trouverez...
vous verrez, toutes les fiches sont extrêmement documentées. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est bien écrit et jamais ennuyeux.
Bah, c'était un petit peu le but de l'opération. Bien sûr, je suis très content que ce dictionnaire marche très bien, et il marche très bien, effectivement, mais je dois reconnaître aussi que dans cette collection des dictionnaires amoureux, j'ai de la chance, parce que c'est un sujet quand même universel. Moi, je vois, il y a des dictionnaires amoureux. Ceux qui ont très bien marché aussi dans cette collection, me disait l'éditeur, c'était Pivot, que vous avez reçu ici, avec les vins. C'est Vitou, avec les chats. J'ai vu qu'il y en avait un en préparation, par exemple, de Fernandez, qui va sortir bientôt, 1000 pages sur Stendhal. Mon ami Alain Rey, qui fait un dictionnaire du diable. C'est marrant, hein, Alain Rey, qui avait fait déjà un dictionnaire amoureux des dictionnaires. Ouais. Voilà.
Eh bien, écoutez, je crois que nous allons en arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée.
Merci beaucoup, monsieur.
Je vous remercie.
Je vous en prie.